soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Bonjour, ici Juliane Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 5 décembre 2025. À l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, célébrée chaque année le 5 décembre à l'initiative de l'ONU, le Réseau de l'Action bénévole du Québec publie l'édition 2025 du portrait des bénévoles et du bénévolat au Québec. Dans la région de la Capitale-Nationale, plus de 75 % des 657 bénévoles interrogés pour ce portrait, œuvrant dans 226 organismes, croient que le bénévolat est essentiel à une société équilibrée, tandis qu'à peine 5 % croient que c'est une façon de faire travailler des gens sans les rémunérer. Toujours selon ce portrait, les bénévoles de la région consacrent en moyenne 8,4 heures par mois à leur engagement, un engagement qui s'étale en moyenne sur plus de 10 ans. Le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale organise une marche dans le cadre de la journée de commémoration et d'action contre les violences faites aux femmes. La marche se veut une commémoration des victimes de Polytechnique 36 ans après la tuerie antiféministe, ainsi qu'une occasion d'indignation face à cette violence persistante qui tue. Le départ de la marche se fera à compter de 13 heures au coin de la 4e rue et de la 1ère avenue en direction du parc Sylvain-Lelièvre. L'action est en mixité. Le Bureau d'animation et d'information logement, le BAIL, a mené hier une action de visibilité pour dénoncer le nombre croissant d'évictions malgré un moratoire de 3 ans voté par l'Assemblée nationale en juin 2024. Une bannière dénonçant l'expulsion de locataires a été placée près de l'ancien bar McFly, tandis que des affiches ont rappelé la démolition d'immeubles près de l'hôpital L'Enfant-Jésus. Le BAIL a recensé plus de 150 cas d'atteinte au parc locatif en 2024-2025, tandis que les audiences du tribunal administratif du logement sont passées de 1061 en 2018-2019 à 3126 en 2024-2025, soit une hausse de 200 %. Le BAIL réclame l'interdiction totale des évictions pour subdivision ou agrandissement, un moratoire sur les reprises quand le taux d'inoccupation est moins de 3 %, un contrôle universel des loyers et un investissement massif dans le logement social. La Charpente des Fauves tiendra demain son premier marché Noël de 10h à 17h. La presque totalité de la bâtisse sera habitée et transformée par une vingtaine de kiosques et autant d'artistes de la charpente et d'amis de ce lieu culturel. L'artisanat traditionnel côtoiera le tatouage, les zines, collages mal commodes, documentaires sonores et conseils vestimentaires. Ce marché offrira la possibilité de débusquer une foule de surprises, la plupart créées pour l'occasion. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de Sequoia 88.3 FM et sequoiafm.org.
Toute simplicité. Si je devais entreprendre de dire comment j'ai souhaité vivre ma vie au cours des années passées, je surprendrais sans doute ceux de mes lecteurs qui sont un peu au fait de mon histoire présente et je sidérerais certainement ceux qui n'en savent rien. Je me contenterai d'évoquer quelques-uns des projets que j'ai nourris. Qu'il pleuve ou qu'il vente, de jour ou comme de nuit, je me suis efforcé d'affûter la lame du temps et de m'en servir, qui plus est, pour tailler une coche sur mon bâton de marche, de me tenir debout en ce point de rencontre de deux éternités, le passé et l'avenir, qui est très exactement l'instant présent. Et de marcher sur ce fil, vous me pardonnerez certaines obscurités, car mon métier recèle plus de secrets que ceux de la plupart des hommes. Mais ces secrets ne sont pas volontaires, ils sont inhérents à la nature même de ce métier. Je ne désire rien plus que d'en dire tout ce que j'en sais et ne jamais inscrire « accès interdit à ma porte d'entrée ». Durant de nombreuses années, je fus inspecteur auto-appointé des tempêtes de neige et des orages pluvieux, et je remplis fidèlement mes devoirs. Je fus inspecteur, sinon des vastes routes, du moins des chemins forestiers et de tous les sentiers de traverse, œuvrant à les maintenir ouverts, à entretenir les gués et les ponts sur les ravines pour faire en sorte qu'ils fussent praticables en toute saison, partout où les semelles du public attestaient de leur utilité.
C'est une grande joie de marcher avec vous, Henry. Je me sens empressé de vous dire ma confiance.
Je remplace et me seul si loin de son foyer.
Vous êtes l'éclat vivant de la providence.
J'aime veiller sur la maison, les enfants et les fleurs. Je serai toujours là. Quoi qu'il arrive,
auprès de moi, je vous sais craintif et rêveur.
L'amitié supporte les absences de l'âme pensive. Il faut écrire, laisser sa trace, écrire.
Mais la force de vos idées.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on va parler de, on peut dire, récupération, de vente d'objets usagés avec Sarah Grenier, qui est la fondatrice de la ressourcerie Nos Choses. Alors, avant de parler à Sarah, on va juste faire ma petite revue de presse, comme d'habitude, là. Ce qui a retenu mon attention cette semaine, c'est encore une fois là, lié au changement climatique, des inondations géantes en Asie du Sud-Est. Là, on voit là, que de plus en plus, les changements climatiques commencent à faire effet. Là. Et ici, on ne sent pas ces jours-ci là, avec le froid, mais en Asie, c'est des moussons extraordinaires qu'ils n'ont jamais vu. Là, on dit en Indonésie, où les inondations et les glissements de terrain ont fait plus de 700 morts, plus d'un million de déplacés, selon un dernier bilan. L'urgence est désormais d'acheminer de la nourriture aux sinistrés dans les zones totalement isolées, alors que les températures en Asie du Sud-Est et au Sri Lanka ont fait plus de 1300 morts. Les pluies torrentielles de la mousson, associées à deux cyclones tropicaux distincts la semaine dernière, ont déversé des trombes d'eau sur l'ensemble du Sri Lanka et certaines des régions de Sumatra en Indonésie, du sud de la Thaïlande et du nord de la Malaisie. Le bilan en Indonésie s'est encore alourdi mardi pour atteindre 712 morts et plus de 2500 blessés. Le nombre de disparus a également augmenté, passant de 475 à 507, a indiqué l'Agence nationale de gestion des catastrophes, laissant craindre un bilan encore plus dramatique, tandis qu'un million d'habitants ont été évacués. Alors, c'est ça, là, c'est que ces inondations-là sont exceptionnelles. Là. Les moussons viennent à chaque année, mais là, pas à cette intensité-là. Même dans le devoir d'aujourd'hui, là, on revenait avec ça, inquiétude face à de nouvelles pluies prévues en Asie du Sud-Est. Des pluies attendues jeudi font craindre de nouveaux dégâts en Indonésie ou au Sri Lanka. On dit l'Agence indonésienne de gestion des catastrophes a actualisé jeudi son bilan qui atteint désormais 836 morts, 518 disparus et 839 000 habitants déplacés, donc 817 000 pour la seule province d'Aceh, la plus touchée en Indonésie. Selon les experts, le changement climatique engendre des épisodes de pluie plus intenses parce qu'une atmosphère plus chaude contient davantage d'humidité et que des températures plus élevées dans les océans peuvent amplifier les tempêtes. Ensuite de ça, ben, un peu en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, il y avait un suivi là, par rapport au Vendredi fou, qui est c'est un événement de surconsommation. Nous, en Simplicité volontaire, le Vendredi fou, on parle plutôt de la journée sans achat. On essaie de ne pas acheter du tout. Mais bon, là, aujourd'hui, on va parler d'achat, au moins d'achat plus écologique, en achat usagé au moins. C'est une meilleure consommation. Mais là, dans le devoir de la semaine dernière, on parlait de commerçants qui défient le Vendredi fou. Alors, certains commerçants ont décidé de ne pas embarquer dans l'excès du Vendredi fou avec des spéciaux qui n'ont pas de sens parce que dans certains cas, quand on a de la marchandise ou des choses qui sont fabriquées ici, les marges sont réduites. Alors là, tout simplement, c'est pas possible pour les commerçants d'offrir des soldes de 50 ou 30 ou 40. Alors, on dit pour Damien Silès, président directeur général de la CQCD, la majorité des commerçants québécois qui proposent des rabais le font surtout par nécessité. Les achats de fin d'année représentent 30 à 40 du chiffre d'affaires. Si le Black Friday est en avril, ce serait plus facile de dire non. Mais fait que là, c'est comme les commerçants sont pris un peu avec ça, c'est le Vendredi fou. En tout cas, autre problème de la surconsommation, disons. Là, peut-être un peu en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, on parle à Montréal, Ça, c'est un article qui date du début du mois de novembre que je trouvais intéressant. Un service de récupération à domicile visant textile et électronique né à Montréal. Le Bombac propose un service de ramassage d'objets inadmissibles à la collecte sélective. Alors, eux autres, je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais c'est qu'ils disent les utilisateurs peuvent commander des sacs, 10 $ chacun sur Internet, les remplir d'objets recyclables admissibles, choisir un créneau horaire pour le ramassage, puis déposer les sacs devant la porte. Et c'est, ici, on ne parle pas de réutilisation, mais de recyclage. Entre autres, on ne peut pas mettre des vêtements, par exemple, dans les bacs de recyclage ou des appareils électroniques, puis eux les ramassent. Et trouve des entreprises qui font le recyclage d'objets. Ainsi, les produits électroniques vont chez Unirecycle à Trois-Rivières. Les bouchons de Liège sont transformés en semelles de chaussures par l'entreprise montréalaise Trolley. Le modèle d'affaires repose sur le tarif payé par les utilisateurs et la revente des produits récupérés. Le Bombac, qui compte actuellement 4 employés, espère desservir 12 000 ménages à Montréal d'ici 2 ans. Il y a des initiatives intéressantes, comme celle dont il va être question aujourd'hui, là, la ressourcerie. Puis, ben aussi, un autre texte de lundi dernier, Haro, sur les bouteilles d'eau à usage unique. En raison de la présence de microplastiques, leur contenu serait plus nocif pour la santé que l'eau du robinet. En plus de polluer l'environnement, le plastique des bouteilles d'eau à usage unique exposerait les consommateurs à des effets délétères sur leur santé. Or, une majorité de gens croient que l'eau en bouteille est meilleure pour la santé que l'eau du robinet. Sarah Sajidi de l'Université de Concordia s'applique à accumuler les preuves de la nuisance de ces bouteilles d'eau à usage éphémère dans le but de convaincre la population d'abandonner leur utilisation et d'inciter les décideurs à adopter des règlements limitant leur usage. La doctorante déplore le fait qu'on s'est très peu préoccupé jusqu'à maintenant des bouteilles d'eau à usage unique dans les discussions sur la pollution plastique. Ce sont surtout les sacs à usage unique et les pailles de plastique qui ont monopolisé le débat, rappelle-t-elle. Lequel débat a finalement abouti à certaines mesures d'élimination qui commencent à porter leurs fruits. Pourtant, les bouteilles d'eau à usage unique représenteraient environ 70 % des déchets de plastique se retrouvant dans la nature. Et puis, dernier texte que j'ai retenu, c'est le devoir de philo, dans le devoir de samedi. C'est un texte que je vous recommande. Vous allez juste aller sur Internet puis écrire le mythe de la neutralité de la technologie avec Jacques Ellul. C'est le philosophe Jacques Ellul qui, dans les années 60, écrivait sur les méfaits, les dangers de la technologie, qui disait que les technologies ne sont pas neutres. Et il est illusoire de penser un jour pouvoir départager le bon du mauvais dans le numérique. C'est ça, Jacques Ellul nous disait, les humains pensent que on peut contrôler les technologies, mais en fait, c'est qu'au bout du compte, c'est les technologies qui nous contrôlent. Alors lui, carrément, il disait tôt ou tard, il faudra oser remettre en question la totalité du système technicien et, pour reprendre la célèbre formule d'Ellul, le sacré qu'on lui confère. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'était dans le devoir de samedi dernier, le mythe de la neutralité technologique avec Jacques Ellul. C'est les chroniques qu'il y a régulièrement là, dans le devoir, là, qui s'appelle le devoir de philo. C'est un beau texte d'une page. Pour ceux qui veulent en connaître plus sur le philosophe Jacques Ellul, qui a réfléchi sur les effets de la technologie. Alors, on prend une pause musicale, puis après ça, on va parler de la ressourcerie Nos Choses. Thank you. Bonjour Sarah.
Bonjour Jacques.
Alors, comme je vous disais, Sarah, c'est la fondatrice de la ressourcerie Nos Choses, qui est en fait avec son copain David. Et Sarah, ben, on va parler un peu parce que c'est pas du jour au lendemain, ça fait longtemps que tu es dans on peut dire que tu t'intéresses à la récupération, au recyclage. Je me souviens là, que tu allais même. Faire des voyages là, en Amérique centrale là, avec des conteneurs d'objets, juste pour un peu nous situer là, ton parcours que tu as fait pour en arriver à aujourd'hui avec la ressourcerie.
En effet, ça date de quand j'étais tout petite. En fait, mes parents ont créé la ressourcerie au Lac-Saint-Charles. Donc, j'ai toujours grandi dans cette ambiance-là, dans ce contexte-là. J'ai deux parents qui protègent l'environnement dans leurs paroles et dans leurs actions aussi. Donc, j'ai grandi ben dans oui. ce milieu.
Entre autres, Pascal oui. que j'ai bien connu, parce que Pascal était fondateur du groupe de Saint-Pierre Volontaire. On a beaucoup œuvré ensemble là, pendant des années. Là.
Exactement. Pascal il a aussi participé à l'appel, l'Association de protection au Lac-Saint-Charles, et fondé aussi la ressourcerie et travaillé en environnement toute sa vie. Donc, j'ai baigné dans ça, dans la nature, et ça a toujours été important pour moi de préserver nos ressources. Donc, j'ai aidé à cette entreprise-là pendant des années. Par la suite, j'ai été me former en psychoéducation à l'Université à Sherbrooke. J'ai travaillé dans les réserves autochtones, ici au centre-ville de Québec aussi, prostitution, toxicomanie. Fait que j'ai baigné dans ce domaine-là. Mais tout ce que j'avais développé et acquis comme expérience, comme compétence dans le réemploi, en voyant les besoins criants au niveau de la surconsommation et la sensibilisation au réemploi, et que les gens, ça devienne une attitude naturelle, automatique presque, d'aller dans le réemploi avant d'aller dans le neuf, je me suis dit, je vais mettre mon énergie au niveau du travail pour tenter de faire évoluer la collectivité en ce sens-là. Donc, et entre-temps, j'ai aussi, pendant 7 ans, envoyé des conteneurs sur maritime au Guatemala, en Afrique, au Brésil, en Colombie, à plusieurs endroits, où j'allais distribuer dans les campagnes éloignées. C'était pas des ballots de vêtements comme on entend maintenant des fois du dumping qui est fait un peu. C'était vraiment du matériel qui était adapté pour les collectivités, les organisations là-bas, des tables d'accouchement. J'ai eu les habits des pompiers de la ville de Québec que j'ai donné. T'sais. Fait que c'était très, très ciblé, des machines à coudre pour que les gens deviennent autonomes, des vêtements, des chaussures, évidemment, du matériel scolaire. C'était très ciblé. Donc, j'allais distribuer ça avec une équipe de bénévoles sur place, des Guatémaltèques, là, ou des gens vraiment locaux. Et ici, j'avais aussi une trentaine de bénévoles pour charger les conteneurs, trouver le matériel. Donc, ça, pendant plusieurs années. Par la
Et
suite...
tu passais plusieurs mois, là?
Je passais 4 mois à peu près par année pour aller distribuer le matériel. Pour pas juste envoyer le matériel, mais vraiment aller faire le suivi, puis former les gens petit à petit aussi à recevoir les conteneurs, parce qu'il y a beaucoup de choses administratives.
Ça doit être une logistique quand même complexe, là, de d'abord envoyer un conteneur au Guatemala, d'aller chercher ça au port, je ne sais pas comment...
Oui, c'est au niveau administratif, j'ai eu pas mal d'apprentissage, mais je me suis lancée dans ça. Fait qu'il y avait aussi la langue, hein, au début, qui je maîtrisais pas l'espagnol comme maintenant, par exemple, l'anglais, fait qu'il y avait beaucoup de paperasse aussi dans une autre langue à faire. Et mais j'ai eu beaucoup d'aide, tu sais, c'est très complexe, mais par exemple, Dolbec, Logistique Transport ici, ils ont vraiment embarqué dans le projet aussi, puis ils me supportaient dans ça. Donc, ils me disaient beaucoup... qu'est-ce que je devais faire. Donc, je faisais la paperasse. J'ai passé plusieurs mois à me former, mais là-bas aussi, rendu sur place dans le pays, où là, je faisais affaire avec des organisations aussi, avec la douane, avec le gouvernement. Il y avait beaucoup à apprendre.
Puis un conteneur, c'est plusieurs camions là, qui pour transporter le matériel dans des petits villages là, où ce que tu faisais.
Ah oui. On s'est équipé d'un pick-up, en fait, au début. On empruntait des pick-up. Mais quand c'est devenu... À la fin, j'envoyais entre 5 et 7 conteneurs par année. Donc là, on avait vraiment un pick-up sur place qu'on pouvait distribuer. Là. Fait que là, je partais avec des équipes de bénévoles dans les campagnes. Donc ça a été une période de 7 ans. Mais je continuais quand même, quand j'étais ici à Québec, à travailler dans le réemploi. Par la suite, j'ai arrêté parce qu'il était arrivé un problème un peu en Colombie. C'est devenu très, très insécure. Et c'est tombé un peu dans la corruption au niveau politique. Fait que là, j'ai mis un petit frein et j'ai aussi ma famille qui est arrivée. Fait que là, un enfant dans ce contexte-là, de partir 4 mois dans un pays qui était quand même assez dangereux. Moi seule, ça pouvait aller, mais là, j'avais un bébé. Là. Fait que là, ça changeait un petit peu de contexte. Mais je continuais à former des gens qui voulaient envoyer des conteneurs. Puis souvent, c'était des immigrants, des gens d'ici, d'une autre culture, qui voulaient aider leur pays. Fait que là, je leur transmettais toute l'information, l'expérience que j'avais eue. Donc, par la suite, ils ont pu commencer à envoyer eux-mêmes des conteneurs. Et on a décidé, moi et mon conjoint, avec l'expertise que lui a, qui est informaticien et graphiste aussi,
ben oui,
de faire une boutique virtuelle dans le réemploi. C'était pendant la pandémie. Les gens vivaient beaucoup d'anxiété. Hein? Il y avait de l'isolement, de l'anxiété, un peu même de panique, des fois. Là. Et puis, moi, au niveau de ma formation en psychologie, j'ai une sensibilité à ça. Puis, le côté humain aussi, très développé, que je veux souvent mettre en priorité. Je veux dire, on va essayer de créer quelque chose pour sortir les gens de cette anxiété-là et aussi permettre aux familles et aux gens d'avoir accès à du matériel. Les bibliothèques étaient fermées, les gens n'avaient pas accès à des livres, à des bottes de pluie, à des vêtements. Fait que là, on a dit non, si on le fait en ligne, ça va être accessible. Parce que c'est le seul commerce qui continuait, si on peut dire. Donc, comme ça a commencé nos choses.
Ben oui, puis ça fait... En fin de compte, vous êtes complémentaires. C'est intéressant parce que lui, il est plus techno, là. Vous avez... c'est une ressourcerie qui est physique, qui est un très beau local. On va en parler tout à l'heure, là. Mais aussi virtuel en ligne. Et ça, c'est un peu exceptionnel. On a, ben, il y a Kijiji là, qui existe déjà, là, mais d'achat en ligne, mais c'est quand même bien fait. C'est facile. Les gens peuvent acheter en ligne, aller chercher l'objet directement à la ressourcerie ou se faire livrer. Là.
Ouais.
Et puis votre site est bien fait. Là. Ça paraît que vous avez... c'est David là, qui est... bonne connaissance au niveau de l'informatique. Vous avez un site Internet bien fait. Fait que c'est original comme idée, là, une ressourcerie en ligne, effectivement, pendant la pandémie.
Ouais.
Fait que, écoute, on va prendre une pause musicale, puis là, après ça, on va embarquer sur plus concrètement là, la ressourcerie, là, nos choses actuellement.
Parfait.
C'était la pavane de Gabriel Fauré, interprétée par Nathalie Choquette, son bel album en triptyque. C'est l'album Eterna Celesta de Nathalie Choquette. Avant ça, on avait eu de l'accordéon. Dyad Muir, c'est un Irlandais. Dyad Muid O'Meachair, The Star of Munster. Puis, un peu plus tôt dans l'émission, on avait eu Richard Séguin de l'album Retour à Walden, Promenade sur le chemin de Walden. Bon, j'ai une statistique intéressante que j'ai trouvée. Je sais que la réutilisation, là, c'est surprenant. Puis, on dit ici que le reconditionnement de lave-linge, autrement dit, c'est eux autres, c'est français, là, c'est une laveuse, dans le fond. Là. Le reconditionnement de lave-linge a entre 42 fois et 49 fois moins de conséquences écologiques que la production d'un appareil neuf. Alors, c'est énorme, là, quand on réutilise, là, ça veut dire qu'on réduit la production, on a moins besoin de produire des objets neufs. Donc, ça a un impact écologique, entre autres. Puis d'autres aussi, d'autres impacts positifs au niveau de d'avoir du respect pour les objets aussi, au lieu de jeter. Là. Alors, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ça, là, de, entre autres, de ta ressourcerie. Sur la rue, en fait, je l'ai pas dit, c'est sur la rue Père Marquette, dans le sous-sol de l'église Saint-Martyr. C'était vraiment bien situé, un endroit agréable à aller. C'est un beau quartier, puis la ressourcerie a beaucoup, beaucoup de choses à offrir. Beaucoup de, moi, j'avais besoin d'une petite cage pour mon chat, puis je l'ai trouvé tout de suite. Puis beaucoup moins cher que j'avais acheté neuf. Je voulais avoir une petite crèche pour mettre en dessous de mon arbre de Noël. J'ai trouvé une belle petite crèche. On trouve beaucoup de choses à la ressourcerie.
Oui, en fait, nos choses existent depuis 5 ans. Comme je disais tout à l'heure, on a commencé en ligne la première année et demie environ. Par la suite, on a déménagé dans le coin de Limoilou, dans une église aussi, Saint-Albert-le-Grand, pendant 3 ans. Par contre, on a dû se relocaliser parce qu'ils vont faire autre chose avec l'église. Et on a trouvé un beau local dans, c'est ça, le quartier Montcalm, à l'église Saint-Martyr canadien. On est là seulement depuis 2 mois et demi. C'est vraiment très, très spacieux, très grand. Ça nous permet de mettre des choses qui sont en ligne aussi accessibles. On parle des meubles, là, aussi accessibles dans la boutique physique. Ça, ce qui est vraiment très, très agréable. Avant, on n'avait pas d'espace suffisamment pour exposer de cette manière-là. Et on est vraiment bien. Ça résonne beaucoup avec le quartier aussi. Partout où on va, ça répond à des besoins, hein, parce que les gens ont besoin, ils veulent acheter dans la seconde main. Les besoins matériels changent, évoluent quand les enfants grandissent, pour toutes sortes de raisons. Mais dans mon cas, on sent une résonance vraiment très vibrante dans ce quartier où que les gens sont déjà, on semblerait, conscientisés à l'environnement et consomment dans le réemploi par choix. Non pas seulement par obligation, par choix. Simplicité volontaire, consommation volontaire, justement.
Ben oui, parce que c'est certain que c'est difficile, malgré que c'est la simplicité volontaire, c'est bon pour tout le monde, mais c'est difficile à faire comprendre à des gens qui sont dans le besoin de faire de la simplicité volontaire. Ça serait... il y aurait de l'éducation à faire, là, pour les, parce que beaucoup de gens s'identifient à ce qu'ils possèdent, au matériel qu'ils possèdent, pour sentir une espèce d'estime de soi. Ce qu'on évite en pratiquant la simplicité volontaire. Puis c'est ça, justement, dans votre... où est-ce que vous êtes situé? Peut-être plus que vous étiez à Limoilou, vous avez comme, on pourrait dire deux grandes catégories de clientèle. La clientèle des gens dans le besoin, puis ça, c'est parfait, ça remplit un besoin, puis c'est normal. Mais ces gens-là pensent pas vraiment à la simplicité volontaire ou à l'écologie, c'est leur besoin, là, d'abord.
C'est ça, économique.
Mais il y a toute l'autre clientèle de gens qui veulent acheter usagers seconde main pour tout simplement des raisons écologiques ou même autres, là, parce que J'étais faire un tour l'autre jour, puis on peut trouver des beaux objets, là, des perles. Là. J'avais une dame qui était à côté de moi qui avait acheté une belle assiette. Là. C'était de la porcelaine anglaise qui était toute travaillée, puis elle était contente de sa trouvaille, la madame. Là.
Oui.
Alors, elle n'allait pas là parce qu'elle était dans la pauvreté. Elle cherchait des perles, là, la madame. Là,
oui, on peut dire que c'est comme un centre de gestion de nos matières collectives faites par les gens du milieu. Et on trouve ça très, très agréable présentement où on est situé dans mon camp parce que les gens résonnent beaucoup à ça et veulent s'impliquer. On a des demandes de bénévoles, beaucoup, beaucoup de gens, puis des gens du milieu qui veulent venir donner, oui, du matériel, mais venir donner de leur temps et venir consommer aussi. Il y a vraiment un projet collectif de quartier qui se développe. Et nos choses sont reproductibles. On pouvait le faire dans le Moilou, ça pourrait être fait à plusieurs endroits si les gens du milieu s'impliquent. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très constructif collectivement. Et ça, l'impact, tout à l'heure, on parlait de l'impact au niveau environnemental, au niveau social et au niveau économique. Bon, les gens économisent, ça peut créer de l'emploi aussi. Ça détourne les sites d'enfouissement, d'incinération des milliers de tonnes de matériel. Ça crée un lieu d'implication bénévole. Nous, présentement, il y a 30 bénévoles. On a par an à peu près 50 gens sur des travaux compensatoires communautaires. Qui ont soit des amendes à payer ou qui ont fait des méfaits, des délits dans la communauté, qui viennent s'impliquer, donc qui viennent faire du temps au lieu d'aller dans les prisons, que ça coûte aussi beaucoup, beaucoup de sous à la collectivité. On a des groupes scolaires qui viennent, qui se sensibilisent, puis en même temps qui aident. On a des groupes handicapés un peu physiquement ou mentalement. Il y a certaines déficiences, des gens qui ont certaines déficiences qui viennent s'impliquer et on s'adapte à eux. Gens qui ont de la difficulté à voir, à voir, d'autres à marcher. On intègre vraiment les gens pour qu'ils se sentent comme dans une famille et acceptés, quelle que soit la situation. Donc ça, ça a un impact. Et le côté environnemental qui est vraiment non négligeable, on parle souvent, « Ah, c'est bien, j'ai récupéré une tasse, j'ai acheté cette tasse-là usagée, donc je ne l'ai pas achetée neuve. » Oui, l'item en tant que tel, mais c'est minime à comparer de tout le reste qu'on ne voit pas directement. Qui est l'usine qui a fabriqué à la base des ressources naturelles qui ont été extraites, l'usine, le transport et toute la pollution et toutes les destructions au niveau environnemental que ça crée, l'emballage, l'électricité, il y a beaucoup, tout ça, c'est beaucoup plus que l'item en tant que tel, qu'il faut toujours se rappeler. Quand on cherche dans le réemploi, on va tout venir avoir un impact sur cette chaîne de production-là aussi.
Puis, comme tu dis, il y a toute une dynamique sociale qui est spéciale, là, avec... C'est pas juste... Parce qu'il y a aussi le don. Il y a l'autre aspect, là, on parle d'aller à la ressourcerie, acheter des choses, mais il y a des gens qui... on passe sur la rue, puis je vois souvent des objets qui sont à la poubelle, là. Alors, parce que les gens savent pas quoi faire, ou ça... Mais, dans le fond, il y a beaucoup de bons objets qui sont mis à la poubelle, là. Et il y a le livre là, de France, je me souviens plus de son nom, là, qui écrit « Ordure », c'est un best-seller québécois, puis lui, il vit quasiment de ça, c'est un éboueur, là, tu sais.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, on va en parler à un moment donné de ce livre-là à l'émission. Fait qu'il y a toute une dynamique sociale là, qui vient avec la ressourcerie. Puis on le sent quand on va à la ressourcerie, on sent un peu cette espèce de dynamique sociale-là qui fait du bien. Là. Ça crée, je dirais, des liens, ça crée de la société. Là.
Oui, absolument. À nos choses, en fait, c'est un organisme où on accepte beaucoup la différence, hein, puis on l'apprécie, la différence, au niveau des individus, des personnes qui s'y impliquent. Et les gens se sentent comme dans une famille. C'est pas une recherche du profit, de vouloir vendre à tout prix. Non, c'est le cœur, c'est les gens. C'est le contact social, c'est le plaisir qu'on a ensemble. Et tout le reste, c'est la forme en tant que telle. Tant qu'on est capable d'y arriver, d'offrir un beau service aux gens, d'offrir du matériel qu'ils ont besoin, puis que c'est un lieu où que les gens ont du bonheur à venir, puis sentent qu'ils font quelque chose de bien, nous, les objectifs sont atteints comme ça, là.
Mmh. Puis là, tu m'expliquais tantôt aussi, il faut voir ça comme deux entreprises, hein, l'entreprise en ligne, puis nos choses, le local, le physique, là. C'est Malgré que c'est lié, c'est quand même deux...
Mais c'est la même entreprise, c'est Nos Choses ont une deuxième vie.
OK.
Nos Choses ont commencé au départ seulement virtuel. Par la suite, on a ouvert la boutique physique. On est à Limoilou, on se faisait beaucoup demander, surtout pour les vêtements, puis les gens voulaient essayer, c'est compréhensible. On a ouvert la boutique physique. Mais c'est dans le sens que c'est pas le même inventaire. Des gens qui sont pas à l'aise à commander en ligne, il y en a qui veulent pas mettre leur numéro de carte de crédit ou qui sont pas à l'aise avec ça, mais ils ont la boutique physique où ils peuvent venir magasiner. Mais ce n'est pas les mêmes objets. Parce qu'on ne pourrait pas, les gens ne pourraient pas, on ne pourrait pas mettre l'entrepôt donc, accessible aux gens qui viennent fouiner, par exemple, dedans directement, parce que s'il y a déjà des choses vendues, il y a des choses qui ne sont pas encore mises sur le site, qui sont prises en photo, mais qui ne sont pas encore montées. Il y a toute une logistique très complexe en arrière qui deviendrait irréaliste si on ferait ça. Fait que c'est vraiment deux boutiques différentes. Mais souvent, les gens viennent à la boutique physique, on a un ordinateur. Les gens cherchent une cage achat. S'ils n'en trouvent pas sur le plancher physique, ils vont chercher dans la boutique en ligne, puis là, ils vont pouvoir la commander. Puis il y a des gens qui ne veulent pas venir à la boutique physique, ils commandent de chez eux. Ils viennent seulement récupérer leur commande quand c'est prêt ou on leur livre directement aussi.
Puis c'est facile d'accès, là, Nos Choses. Et comme je disais, c'est l'église
Saint-Martin.
Puis c'est tout près de l'arrêt de 800.
Oui.
Si quelqu'un veut y aller en autobus.
800, 801, 803. On est sur les trois parcours.
Puis ça se fait bien. Il y a du stationnement. C'est facile de stationner parce qu'en avant, sur la rue Père-Marquette, on peut stationner. Puis même un stationnement de l'église en haut. Ouais,
à pied aussi.
En vélo.
L'été prochain, on veut mettre un rack à vélo.
Oui, c'est ça, je me disais. Ça prendrait un stationnement à vélo. Hein,
qu'on vient d'arriver. Donc, on a été très. Il y a une très, très belle. Coopération avec l'Église et la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Vraiment, on a eu un bel accueil. Ça va très, très bien. Puis grâce à eux aussi de nous avoir fait confiance, ils nous ont ouvert les portes. Puis en même temps, c'est extrêmement motivant parce qu'on parle de réemploi de matériel. Mais nous, on cherche de se mettre dans des contextes où que ça a du sens. Ça a du sens à plusieurs niveaux. Il faut que ce soit cohérent. Et on sent une cohérence très grande d'être dans les églises parce qu'on poursuit la mission communautaire. De quoi ça a été créé à la base aussi. Oui. Et on aide à conserver le patrimoine. Comme là, le loyer, nous, stable pendant des années, ça paye l'électricité du bâtiment et ça l'aide à payer des réparations aussi que souvent les églises doivent se faire vendre parce qu'ils n'ont plus de moyens. Puis ça a été ça qui s'est passé à l'autre église où on était. Il n'y avait plus les moyens pour refaire le toit. Mais nous, en étant là, on permet de maintenir ce beau patrimoine-là. Donc, les gens puissent continuer à utiliser l'église.
Ah oui, puis c'est une belle église. Là. C'est patrimonial. Oui. Et c'est super, là, tu sais, c'est parce que on perd des richesses, là, avec ces églises-là, si on ne peut pas les entretenir puis les faire vivre, là. Fait que vraiment, là, c'est super, là, c'est gagnant-gagnant pour la communauté. Puis elle est belle, l'église, dans le quartier, c'est un beau quartier à aller, là, c'est pour un endroit pour prendre des marches, puis comme on parlait du vélo, Père-Marquette, c'est une chaussée désignée pour le vélo.
Oui.
Alors, c'est vraiment, vous êtes vraiment bien situé, là.
Les gens vont marcher là, ils rentrent faire un petit tour. Les gens avec les poussettes. Il y a beaucoup de jeunes familles, il y a beaucoup de personnes retraitées aussi. C'est multigénérationnel, beaucoup comme quartier. Fait que les gens à la retraite, ils veulent venir donner du temps. Il y a beaucoup de gens seuls aussi. Fait que là, eux, ça vient répondre. On a des très bons commentaires de la population du quartier dans le sens que ça manquait. Ça manquait vraiment un lieu comme ça.
Ben oui, c'est ça. C'est un lieu qui crée. Justement, de la communauté, là, c'est comme... Il y a des endroits comme ça qui créent... Mais moins par exemple, les bibliothèques, mais ça dépend de la bibliothèque, je dirais. Puis même souvent, on va à la bibliothèque, on parle pas aux autres, là, on est seul. Là.
Ouais.
Alors, il y a le café Smith, là, sur Belvédère, là, qui est pas loin, là. On peut aller prendre un café aussi en même temps. Ça, c'est des endroits qui permettent de créer de la communauté, là, créer des liens. Puis, c'est ça. Ça c'est un...
Oui, puis l'objectif aussi, on a plusieurs objectifs dans le temps d'ouvrir à autre chose, d'ouvrir à peut-être des activités de connexion avec les gens, des activités de partage. On verra dans le temps, on vient d'arriver, mais on sent que c'est une partie des valeurs de Nos Choses aussi. Hein.
Oui.
Oui.
Peut-être que ça serait une bonne idée, petite suggestion, peut-être mettre deux petites tables dans l'entrée, là, dans le puis que les gens pourraient s'asseoir pour lire, puis peut-être prendre un thé ou quelque chose comme ça. Là.
Ouais, après, parce qu'on a la thématique des fêtes, comme là, c'est Noël. Après les fêtes, on pourrait faire un petit endroit comme ça, absolument dans l'entrée. Et nos choses, en fait, on est toujours dynamique et organique, dans le sens qu'on prend les commentaires des gens, puis on fait avec ce que les bénévoles nous disent, les gens nous disent, puis on essaye de toujours être en mouvement comme ça, avec la résonance quartier. C'est pour ça que les gens, puis du quartier et autres, là, qui viennent, pour ça que les gens, quand ils parlent de nos choses, souvent, là, dernièrement, on a beaucoup, beaucoup de commentaires. De quoi, c'est une expérience particulière.
Ben oui, c'est formidable, puis on se sent bien. Fait que ça serait, je suis certain qu'on se sentirait à l'aise de s'asseoir quelques minutes, parler avec un étranger, même... À la table, il y a des livres. En plus, il y a des livres, là, il y a des CD. Tu sais, c'est comme quasiment l'embryon d'une petite librairie café là, que vous pourriez avoir.
Oui,
là.
Oui, c'est vrai.
Ouais, en tout cas, moi, je suis vraiment enchanté de votre petite ressourcerie. Écoute, on va prendre une dernière petite pause musicale. Puis après ça, ben, on va conclure un peu là, qu'est-ce qu'on a à retenir de tout ça. Là. C'était la pièce Navigation 3 de l'album de Flore Laurentienne. C'est le nom du groupe, Flore Laurentienne. Je trouve ça beau comme nom. Flore, en fait, le nom du groupe, le nom de l'album, c'est Flore Laurentienne, volume 2. Et c'était Navigation 3. Bon, alors, Sarah, là, on peut-être, il nous reste 4 minutes là, pour conclure l'émission. Là. On va regarder un peu plus large. Là, c'est que non seulement c'est communautaire puis paroissial, mais aussi il y a une dynamique, on peut dire, municipale. La ville, la ville de Québec est contente, je pense, aussi de ce que vous faites, là, puis vous appuyez un peu dans votre démarche. Là.
La Ville de Québec, en fait, était intéressée à trouver une manière de créer une ressourcerie virtuelle, si on peut dire. Et ils nous ont approchés, puis ils ont dit, vous faites tellement ce qu'on aurait espéré faire, mais on ne sait pas comment, parce que c'est quand même assez complexe. Hein. Tantôt, on parlait du site Internet. Oui, il faut avoir des compétences pour ça, une mise à jour aussi fréquente. Mais toute la structure qu'il y a en arrière, qui est basée sur des années de connaissances aussi, mis ensemble. Donc, ils se sont bien rendus compte que, oh, OK, non, c'est pas évident à faire. Fait que dans le plan de gestion des matières résiduelles, qui est renouvelé à chaque 5 ans, ils ont dit, bien, on va vous appuyer. C'est pas des montants faramineux, mais c'est quand même une belle aide, puis c'est une belle preuve de confiance aussi et de désir d'aller dans cette direction-là. Donc, depuis 2 ans, ils nous font une certaine aide financière qui nous a permis aussi d'être un petit peu plus confortable, un peu plus stabilisé, quoique il y a seulement 2 employés, puis c'est des salaires vraiment de passionnés, si on peut dire. Il n'y a personne qui fait ça pour le salaire. Donc, mais ça nous permet d'être quand même pas toujours avec un stress financier, de dire, bon, c'est correct. Donc, merci à la Ville pour cette action-là, si on peut dire.
C'est le fun que la Ville ait des préoccupations comme ça, écologiques, là, ça aussi, j'ai remarqué ça au Québec, là, les endroits les plus progressistes au point de vue politique, c'est les municipalités, les villes. Là, on a des maires intéressants qui ont des initiatives, entre autres le maire de Québec, là, Bruno Marchand, mais même à Laval, c'était un maire écologique là, qui a une grosse pente à remonter, mais il a écrit un livre qui s'appelle « Une ville sans auto », il faut le faire là, à Laval, là.
Souvent, les organismes font économiser beaucoup plus aux villes que ce que les villes leur donnent, par exemple, de subventions. Là. Mais quand même, on est là. T'sais, on peut se dire qu'il y a quand même un cheminement là, du positif dans ça. Mais c'est sûr qu'en bout de ligne, nous, au niveau de la gestion de matières résiduelles, on fait économiser énormément à la ville, la réinsertion sociale, beaucoup, beaucoup plus que ce qui est retourné. Mais c'est quand même un clin d'œil intéressant.
Il y a une contribution à la communauté là, qui est vraiment non négligeable. Là. Que c'est la protection du patrimoine religieux. Déjà, là, pour les municipalités, ça peut être un défi là, d'aider les églises à se maintenir à flot, là, parce qu'ils ont des dépenses énormes là, d'entretien. Là.
Oui, des idées comme nos choses peuvent devenir même une solution. En plus que c'est un modèle reproductif, puis nous, on est extrêmement ouverts à ce que ça prenne, que ça devienne un modèle au niveau du réemploi, s'il y a des gens qui sont motivés à embarquer aussi dans le projet, mais ça peut devenir une solution pour protéger, pour préserver et prendre soin de nos églises.
Oui, oui. Ouais. Puis il nous reste à peine 30 secondes, là, mais tu me disais aussi que vous aviez des démarches aussi au niveau des taxes de vente. Hein?
Bien, c'est sûr qu'auprès de Revenu Québec, on a déjà écrit des lettres. Je sais qu'il y a d'autres organismes aussi qui font des certaines pressions et nous, on leur a parlé, on leur a demandé aussi d'enlever la taxe parce que les organismes sans but lucratif comme nous, ce qui est mal compris des fois par rapport aux gens, c'est non, tous les organismes sans but lucratif ne chargent pas la taxe. Non, c'est pas vrai. Tout ce qui est du réemploi, on doit payer nous-mêmes la taxe. Nous, on la fait pas charger aux gens parce qu'il y aurait trop de confusion. Puis ça serait, on dit, on va la prendre, on va la payer. Mais en même temps, c'est énormément de sous qui pourraient être investis beaucoup plus à profit pour faire encore plus de réemploi, pour aider encore plus la communauté. Fait qu'en plus que ce matériel-là, la taxe a déjà été payée.
Oui.
Donc, mais c'est une loi que Revenu Québec devrait, je pense, changer.
Ça serait à revoir, peut-être, parce que en plus, peut-être qu'il faudrait pour au moins les OBNL, parce qu'il y en a dans le privé, là, prend le vendeur d'auto usagé, bien là, lui...
C'est ça, les OBNL. Les organismes de bienfaisance déjà sont accrédités pour ne pas payer de taxes, mais les organismes de bienfaisance ou de charité, on dit, il y en a eu beaucoup, beaucoup dans le passé avant les années 2000. Après les années 2000, c'était très, très dur d'avoir un numéro de charité. Fait que c'est les OBNL qui ont été créés après les années 2000, mais qui sont sans but lucratif. Là, je pense que oui,
la loi... Il y aurait peut-être une façon de changer la loi, permettre au moins pour les OBNL d'être exemptés de payer la taxe, là, ça. Ça fait que l'émission est terminée, mais merci beaucoup, Sarah. Merci. Alors, j'invite tout le monde à aller sur le site Internet. Vous écrivez dans Google « Nos choses », puis vous allez avoir ça s'appelle « Nos choses ont une deuxième vie », je pense, le nom complet. Mais si vous écrivez « Nos choses », ça sort dans Google, là, puis le site en ligne. Et pour moi, une belle expérience, c'est aller en personne... Au sous-sol d'église Saint-Martyr, c'est sur Père Marquette, il y a comme la porte donne sur la rue carrément, c'est comme un tunnel qui arrive directement au sous-sol d'église, c'est vraiment spécial comme accession pour accéder au local. En tout cas, j'invite tout le monde à aller vous voir. Ça fait que je te remercie beaucoup, Sarah, pour ta visite aujourd'hui, puis félicitations encore pour votre belle mission.
Merci.
Alors, bonne semaine. On se voit la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. On va prendre des vacances dans le temps de...